Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Boîte à Clés. Je suis Catherine Baudouin, je suis coach personnel et professionnel et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Si vous découvrez le podcast, en deux mots, le principe est de vous apporter des sources d'inspiration au travers des rencontres que je fais, mais aussi par le biais d'outils et techniques de développement personnel. L'objectif est de vous permettre d'apprendre à donner le meilleur de vous-même, à révéler votre potentiel et à passer à l'action. Je vous rappelle que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix et le partager si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un. Enfin, et le plus important pour le soutenir est de mettre une note 5 étoiles ou un avis, un commentaire sur iTunes. Je suis particulièrement contente aujourd'hui de partager avec vous ma rencontre avec Sophie Gélard-Bartolo. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais je vous avoue que j'ai été par moments particulièrement émue et touchée par son discours. Si vous ne la connaissez pas, vous allez découvrir une personnalité assez exceptionnelle, un optimisme de fer comme j'en connais peu. Sophie est une sportive de haut niveau avec la particularité d'être atteinte d'une maladie auto-immune. Et c'est justement grâce à cette maladie qu'elle en est arrivée à ce niveau de compétition et plutôt que d'en faire un fardeau, elle en a fait une force. Et je ne vous en dis pas plus et laisse la parole à Sophie Gélard-Bartolo. Bonjour Sophie.
Bonjour Catherine.
Bienvenue sur le podcast.
Merci de m'avoir invitée.
Merci, tout simplement. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais un grand merci. Je suis ravie d'avoir ce moment d'échange avec vous. C'est un vrai plaisir.
Et
je m'attends à vivre des émotions assez fortes, hein, de passer d'émotions variées assez fortes et à vivre un moment assez enrichissant. Et avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui?
Bien sûr, alors donc je m'appelle Sophie Gélard-Bartolo, voilà, j'ai 36 ans. Actuellement, j'ai une passion qui me prend beaucoup de temps, qui est l'équitation. J'en fais un petit peu à haut niveau. Et voilà, j'ai participé à quelques compétitions en international avec l'équipe de France. Et j'ai une autre particularité, c'est que je suis atteinte de sclérose en plaques.
D'accord.
Depuis maintenant 16 ans. Et c'est aussi grâce, je dis bien grâce, à cette maladie que j'ai réussi à faire du haut niveau.
D'accord. Bon, alors ça, c'est le sujet qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, donc on va y revenir plus en détail. Je crois savoir qu'à la base, c'est pas votre métier, c'est, vous l'avez dit, une passion. Et oui. Vous êtes infirmière à la base,
si c'est ça. J'ai même été d'abord aide-soignante, puis infirmière.
D'accord.
Et une fois mon diplôme arrivé à terme, mon diplôme d'infirmière, je suis tombée malade. On m'a diagnostiqué donc une sclérose en plaques. Et très vite, je n'ai plus pu exercer. Une perte de sensibilité au niveau des mains, des difficultés à me déplacer, une grande fatigue, etc. Donc de là, ma vie bascule.
Et je ne sais pas. Donc ça, c'était il y a 16 ans ?
C'était il y a 16 ans.
Donc vous avez exercé pendant combien de temps, métier d'infirmière ?
Je n'ai jamais exercé en tant qu'infirmière. J'ai exercé en tant qu'aide-soignante. Et une fois mon diplôme infirmière en poche, la maladie s'est très très vite dégradée. Et je n'ai jamais pu exercer.
Ok. Alors justement, comment elle est arrivée dans votre vie, cette maladie ?
Alors, c'était suite à plusieurs chocs émotionnels qu'elle est apparue. On sait qu'il y a un lien direct entre le psychologique et l'évolution de la maladie. Donc ça s'est déclenché suite au décès de mon grand-père et à la rupture avec mon premier petit copain dont j'étais très amoureuse.
D'accord.
Et donc un matin, je me lève, j'ai des vertiges. J'ai de plus en plus de mal à marcher. Et je me dis que c'est sûrement parce que j'ai trop pleuré que je me sens mal, que j'ai pas bien mangé ou mal dormi. Et ça se dégrade de jour en jour. Et je boite. Je vais voir mon médecin. Tout de suite, il m'amène aux urgences. Il pense que j'ai fait un AVC. IRM, compagnie, plein d'examens. Et là, on m'annonce le diagnostic sclérose en plaques. Donc, alors, moi,
À ce moment-là, vous avez donc, 20 ans ?
J'ai 20 ans. J'ai 20 ans, donc je démarre dans la vie.
Tout juste diplômée ?
Tout juste diplômée, je démarre dans la vie. Et là, on me dit sclérose en plaques. Alors moi, pour moi, c'est une maladie où on en meurt, où je vais devenir grabataire en fauteuil roulant. Je connais pas cette maladie. Et pourtant, bizarrement, j'ai pas peur.
D'accord.
J'ai pas peur parce que le médecin qui me l'a annoncé l'a fait certainement de façon intelligente et m'a vite apaisée en me disant « on ne meurt pas de ça ». Il y a autant de sclérose en plaques qu'il y a de malades. On ne va pas pouvoir te donner l'évolution de ta maladie, parce qu'il y en a plein. Voilà, on sait que tu as cette maladie-là. Pour l'instant, tu as cette paralysie de la jambe. On va essayer de récupérer ça en faisant de la kiné. Et donc, c'est parti comme ça. Je suis rentrée chez moi. Alors par contre, exténuée, hein, je passais l'aspirateur, je devais dormir 2 heures. Donc
d'accord.
Effectivement, ma vie a quand même bien changé.
Beaucoup changé.
Mais j'étais très, très entourée par beaucoup, beaucoup d'amis, la famille. Et je ne me suis jamais sentie isolée ou perdue. Mmh. Et très vite, j'ai rebondi et je me suis adaptée à ce nouveau mode de vie.
Le mode de vie, okay.
Voilà.
Parce que justement, c'est la particularité de cette maladie, ce que vous disiez à l'instant, c'est qu'on ne peut pas la prévoir, enfin, comme toutes les maladies de toute façon, de manière générale, mais particulièrement la sclérose en plaques.
C'est ça.
D'une personne à une autre, on
c'est
ne peut pas savoir.
C'est l'épée Damoclès sur la tête.
C'est ça.
Voilà, on ne sait pas.
Concrètement, en 2 mots, pour les gens qui ne connaîtraient pas bien cette maladie, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
Alors, c'est ce qu'on
dans un vocabulaire
bien
assez
bien sûr, facile,
simple,
oui, oui. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Ça veut dire que c'est mon propre corps qui se détruit.
Tout seul.
Tout seul. Donc, ça atteint en gros le cerveau et ou la moelle épinière. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est le système nerveux central et c'est tout ce qui commande. Moi, j'ai cette particularité de ne rien avoir au cerveau. Mon cerveau est intact, mm-hmm. mais ma moelle épinière est atteinte. Donc, ça touche principalement tout ce qui est moteur. Mm-hmm. Les jambes, la boiterie, une faiblesse musculaire au niveau des bras, etc. Et il y a un autre symptôme qui est spécifique à cette maladie, quelle que soit la forme que l'on a, si ça atteint le cerveau, la moelle ou les deux, c'est la fatigue. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Donc, d'un jour à l'autre, du matin à l'après-midi, ça peut changer.
D'accord.
Donc, c'est très difficile, ça, de le faire comprendre à notre entourage que parfois, on est exténué. Alors, moi, je fais souvent un petit peu l'allusion à un lendemain de grosse fête.
D'accord.
Voilà, on sent un peu comme ça, un peu tout à plat, on a envie de faire des choses, mais on a la force de rien.
Mm-hmm.
Voilà. Okay. Donc, ça, c'est pour tout le monde pareil.
Okay.
Après, chacun voilà, a d'autres symptômes. Il y en a, c'est des problèmes d'élocution, de mémoire. Ça, c'est quand ça atteint plutôt le cerveau. Il y a des problèmes urinaires. Mm-hmm. Ça peut, voilà, c'est assez vaste et ça dépend de quel endroit exactement ça touche.
D'où part la maladie.
Voilà.
D'accord. Ok. Comment elle a évolué, vous, la maladie, depuis cette annonce, il y a 16 ans?
Alors, il y a 16 ans, donc, j'ai perdu un petit peu de mobilité de ma jambe gauche. Je l'ai complètement récupérée au bout d'un an. Et depuis, je n'ai pas fait ce qu'on appelle de pousser. Parce qu'en général, mm-hmm. ça marche par pousser. Donc, il y a une crise, on n'est pas bien. Et puis, on récupère plus ou moins tout. Et après, il y a une autre phase dans la maladie, ce qu'on appelle évolutive. C'est-à-dire qu'il n'y a plus comme ça de poussée, de crise, mais ça évolue de façon insidieuse, sournoise. Voilà, donc moi, je suis plutôt dans cette forme-là, mm-hmm. où ça évolue de façon très lente, parce que j'ai aussi un traitement de fond, mm-hmm. hein, une perfusion tous les mois à l'hôpital, etc. Et depuis donc 16 ans, donc, j'ai récupéré ce côté gauche, mais j'ai mon côté droit qui est... quand même très affaiblie, donc je boite beaucoup, j'ai une attelle en permanence sur ma jambe droite qui me permet de marcher sans douleur. Voilà, donc je suis quand même contente, je suis très indépendante, je conduis, bon, une automatique, mais je conduis, je peux tout faire, voilà. Donc mon idéal serait que ma maladie s'arrête là. Voilà, je vis très bien comme je suis aujourd'hui, même avec ces difficultés.
Alors justement, c'était ma prochaine question, comment ça se traduit au quotidien, est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il y a des suivis médicaux? Je ne sais pas, des séances chez le kiné? Vous parliez à l'instant de l'hôpital. Mmh. Concrètement, au quotidien, qu'est-ce que ça représente?
Alors, le quotidien, on va l'appeler pénible. Mmh. Tout est pénible. Hein, se servir un verre d'eau, ça me demande de la concentration parce que j'ai une perte de sensibilité de la main. Me boutonner le matin, me déshabiller, m'habiller, me sécher. Tous les gestes du quotidien sont pénibles. Quand mon mari laisse ses chaussettes, hein, comme tous les maris traîner dans la maison, et ben, c'est stupide, mais moi, me baisser, les ramasser, ça va demander une énergie considérable.
Okay.
Par rapport à une personne non malade. Bien évidemment, je fais comme tout le monde, voilà. Mais à la fin de la journée, on sent qu'on a ramassé plus ou moins de chaussettes dans la maison. Voilà. Après, on est très très rythmé effectivement avec les soins. Alors moi, c'est un choix de ne pas avoir fait de kiné parce que j'ai toujours cette impression de me rappeler que je suis malade, que je vais à l'hôpital pour faire des exercices. Donc ça a été vraiment un choix très rapide où j'ai refusé ces soins-là. Mais par contre, je me suis mise au sport.
Ok. Voilà. Qui du coup est une alternative.
Pour moi, alors c'est très très personnel, plus efficace que la kiné.
D'accord.
Parce qu'on se pousse un petit peu plus loin. Voilà. Okay. Et après, oui, après il y a les IRM de contrôle. Moi, j'ai les perfusions tous les mois. Voilà, il y a des soins. On est quand même rythmé par le médical, quoi qu'il arrive.
Qui là sont inévitables.
C'est ça. Il y a un minimum de suivi quand même. Hein.
Ouais. Ok. D'accord. Et alors justement, donc pour en venir au sport. Oui. Donc je sais que vous en avez fait une force aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Comment le sport est arrivé Ou est-ce que le sport était déjà dans votre vie avant la maladie ou il
pas
est arrivé
tout.
Par l'intermédiaire de la maladie?
Je n'étais pas du tout sportive, mais vraiment pas du tout. J'ai dû avoir 6 au bac en sport. Mm-hmm. Et pourquoi? Alors le cheval, déjà j'ai un lien très particulier avec les animaux, je suis passionnée d'animaux. J'ai eu ma petite fille qui, elle aussi, rapidement, a beaucoup aimé les animaux et m'a réclamé des tours de poney.
D'accord.
En balade, voilà.
Donc, vous avez votre fille...
J'ai ma fille pendant
la maladie. D'accord.
Et donc, je lui fais faire un tour de poney. Et moi, jeune adolescente au collège, j'avais fait un petit peu de cheval le samedi après-midi. Voilà, trop rien de sérieux, mais j'étais déjà montée. Puis, tiens, c'est vrai que ça me plairait. Ça me plairait d'essayer. Mais alors attention, j'étais pas du tout sûre d'en être capable, j'avais qu'une jambe. Donc j'ai demandé au directeur du centre équestre, est-ce que vous pensez que je peux essayer de monter à cheval? Il a accepté, on a fait une demi-heure de cours en particulier, et je suis plus jamais redescendue de cheval.
D'accord.
Voilà.
C'était une révélation.
Alors bien sûr que j'avais des difficultés à cheval, hein. Je perdais complètement l'équilibre, je tombais même du pas quand je tournais à droite mon cheval, hop, je tombais sur la droite du cheval. Mais ça restait quand même plus confortable que d'être sur terre.
D'accord.
Voilà, plus simple malgré les difficultés.
D'accord.
C'était plus facile.
Ok, et alors comment vous êtes passé de faire une première balade au pas, enfin cours individuel au pas d'une demi-heure à aujourd'hui faire des concours de dressage à l'international?
Oui, c'est allé très très vite. Alors je suis quand même, il faut savoir, une personnalité plutôt excessive. Par exemple, le cheval, je ne pouvais pas y aller qu'une fois par semaine pour me balader, non.
D'accord.
Tout de suite, il a fallu que je monte tous les jours parce que ça me plaît, donc je ne peux pas me raisonner et me dire qu'une fois par semaine, ça suffira. Donc très rapidement, j'ai monté... quasi tous les jours.
Okay.
Des personnes m'ont côtoyé, m'ont remarqué, ont senti ma motivation et m'ont prêté leurs chevaux. Mm-hmm. Voilà, des chevaux gentils, hein, parce que j'avais quand même encore aucun équilibre. Et donc de là, ça s'est enclenché. Donc physiquement, j'ai quand même beaucoup pris sur moi parce que ça m'a provoqué des douleurs musculaires, mais vraiment intenses. J'ai eu des contractures musculaires, on va dire, pendant 2 ans, jour et nuit. Je sentais tous les muscles de mon corps. Et justement, cette douleur-là m'a permis de me sentir vivante. Où je sentais de nouveau toutes les parties de mon corps.
Incroyable.
Parce que ma jambe qui se paralysait, c'est une jambe un petit peu... un fardeau que je porte, comme si elle était un petit peu anesthésiée. Et le fait d'avoir mal musculairement, ça me fait prendre conscience de nouveau que j'ai une jambe.
Incroyable.
Donc finalement, la douleur est devenue, une douleur, attention, quand même raisonnable, hein,
supportable.
C'est devenu mon allié.
Vous existez au travers
de ma douleur.
Vous existiez au travers de
la douleur. C'est ça. Du coup, je n'ai jamais arrêté. Alors tout mon entourage me disait, mais quand même, tu devrais un petit peu te calmer, tu as mal, on le voit. On me touchait à peine, c'est comme un bleu, quoi. C'est comme une grosse séance de sport, hein. Et donc, je n'écoutais personne.
À aucun moment donné, vous avez eu envie de baisser les bras?
Jamais.
Okay.
Jamais, au contraire. Parce que plus on monte à cheval, mais ça soit une handicapée ou une valide, il y a des progrès quand même qui s'installent.
Sûr.
On voit, il y a un lien avec notre cheval aussi qui s'établit. Mon cheval, c'est devenu mon âme sœur poilue, je l'appelle comme ça. C'est vraiment, il m'a tout appris. Il sentait que je perdais l'équilibre, il rattrapait avec ses pattes pour me relever et me remettre à cheval. Enfin, c'est un des meilleurs moments de ma vie.
Alors, à quel moment, lui, il est arrivé dans votre vie? Parce qu'il y a l'équitation qui est arrivée dans votre vie et ensuite votre cheval.
Très rapidement, on va dire, peut-être 6 mois après ma première balade, le fameux directeur du centre équestre qui m'a permis de remonter à cheval a aussi très rapidement interdit de monter. parce qu'ils trouvaient la situation trop dangereuse. Mmh. Parce que j'avais fait des chutes, une grave chute, j'avais fait un trauma crânien suite à une chute. Il m'a dit stop, je ne peux plus prendre ce risque, j'ai trop peur que tu te fasses mal. Mmh. Et là, ça a été le drame pour moi, parce que c'était, je sentais bien que ça allait être mon médicament et ma force. Et je n'ai pas lâché l'affaire, et c'est là où j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont prêté leurs chevaux, dont un cheval qui s'appelle Index, mon âme sœur poilue. Mmh. Et donc avec lui, j'ai passé un an au travail, et c'est lui donc qui m'a tout appris. Et jusqu'à à la fin de l'année, faire une petite intervention en spectacle avec lui, dans le spectacle du club, là, la fête du club, où je suis montée sur lui sans selle, accrue, ce qu'on appelle, sans filet, avec juste une petite corde autour du cou, et à la voix, il m'écoutait. Et on allait à toutes les allures, on changeait de direction, rien qu'à la voix, ou en lui montrant avec mon bras où est-ce que je voulais aller. Donc là, je me suis dit, bon, là, il y a un lien très particulier, magique, qui se passe avec les chevaux. Il ne faut pas que j'arrête. Donc, dans ma tête, c'était plus peut-être même une idée de cirque ou de spectacle ou voilà, en harmonie avec le cheval.
D'accord.
Et ça ne s'est pas du tout fait comme ça parce que j'ai repris des cours avec une coach du centre équestre qui, elle, a bien voulu me redonner des cours, m'enseigner. Et elle m'a dit, bah, tu vas faire un peu de concours. Au début, à côté, dans la région.
En local.
Et puis, ça me plaisait. J'aimais bien un petit peu ce challenge, cette adrénaline, tout ça. Donc, on est parti en petit concours. Et puis, il y a d'autres propriétaires, d'autres chevaux, avec des chevaux vraiment de qualité supérieure, des chevaux de haut niveau, qui est venu me voir et qui m'a dit, si tu veux, moi, pareil, je te prête mon cheval pour apprendre des choses plus techniques. Et tu as le droit de faire du concours avec ma jument.
D'accord. Est-ce que là, à ce moment-là, ces gens-là avaient connaissance de votre maladie ?
Tout à fait.
Pas du tout. Ok.
Tout à fait. Mais ils voyaient cette motivation, cette hargne, et puis les progrès quand même rapides que je faisais.
Et vous, et peut-être même le cheval aussi, parce que c'est un travail de couple. Enfin, c'est un travail à deux.
C'est ça.
Il
n'y
a pas que le cavalier.
Le cheval n'était pas du tout habitué à être monté par une personne avec un handicap, juste un côté qui marche. Pour lui, c'était nouveau et ils se sont très très vite adaptés. Et voilà, donc j'ai monté cette nouvelle jument de haut niveau, qui m'a propulsée un petit peu dans le haut niveau.
D'accord.
Avec ma coach de l'époque, qui me dit, écoute, je crois qu'il faut tenter le championnat de France par dressage. Moi, j'y croyais pas du tout. J'ai dit, écoute, moi, j'ai pas du tout l'expérience. Je me sens pas techniquement capable de le faire. Elle a insisté, on y est parti. C'était à Saint-Lô. Et je fais mon championnat de France, et là...
Alors ça, c'était quand ? C'était en quelle année ?
C'était il y a 3 ans.
D'accord.
Il y a 3 ans, donc je monte à cheval depuis 2 ans quand même, c'est pas beaucoup, 2 ans et demi. Et il y a l'entraîneur de l'équipe de France, Philippe Sellerier, qui me remarque, qui me donne quelques conseils à la détente. Déjà, j'étais très très contente, voilà. Et il me dit, je voudrais te voir au prochain stage. Prochain stage, équipe de France. Waouh.
Rien que ça, déjà.
Ça, c'était quand même déjà fou. La jument que je suis en train de monter, c'est une jument en fin de carrière qui allait partir à la retraite. Je sentais bien que j'étais à un moment clé de ma vie pour le cheval. J'étais en nette progression. L'équipe de France qui commence à me détecter, j'ai dit, maintenant, il faut que j'achète mon cheval. Il me faut un cheval gentil, il me faut un cheval avec des capacités techniques qui puisse m'amener plus loin. Donc, me voilà partie en Allemagne pour essayer plusieurs chevaux de dressage et j'en ramène un.
Pourquoi l'Allemagne précisément ?
Pourquoi l'Allemagne ? Parce que c'est un pays où l'on trouve beaucoup de chevaux de dressage. C'est leur spécialité, on va dire. Nous, c'est plutôt le saut d'obstacle en France. Et l'Allemagne, c'est le dressage et puis ça a des prix aussi plus raisonnables qu'en France.
Ok.
Voilà. Et donc, j'en ramène un qui sera mon Landiro, ma licorne. Et je pars avec lui.
Là, il y a un coup de cœur quand vous le rencontrez.
C'est foudre. C'est inexplicable. C'est le premier que j'ai essayé là-bas sur une dizaine de chevaux essayés. Je me dis, s'ils sont tous comme ça, je ne pourrais pas choisir. Bon, c'était le seul comme ça. Et voilà, on a commencé l'aventure.
Vous avez senti que c'était un coup de cœur respectif ?
On s'est choisi. Okay. On s'est choisi. Déjà, je suis montée sur lui. Tout de suite, il a accepté mon handicap, cette jambe qui ballotte à cheval. Les chevaux n'aiment pas trop avoir des jambes comme ça, un petit peu. Lui, mais il m'a rien dit, il a écouté tout ce que je lui ai demandé, je suis descendue de cheval, il a mis sa grosse tête sur moi, il s'est appuyé et il m'a fait des bisous pendant 10 minutes. Il dit ok, on s'est choisi.
D'accord.
Voilà, c'était lui.
Donc là, vous êtes rentrée avec lui.
Je suis rentrée avec lui et on a fait notre premier stage en équipe de France, stage de détection.
Donc, suite à la fameuse...
Suite au fameux championnat de France par dressage.
Ok, voilà. D'accord.
Donc là, j'avais mon nouveau cheval, hein, que je connaissais quand même pas très très bien. On fait l'essai. Donc, c'est quand même un moment particulier parce qu'il y a tout le staff de l'équipe de France qui vous regarde. Vous ne savez pas du tout ce qu'il faut faire. Est-ce que vous allez être à la hauteur?
Qu'est-ce qu'ils attendent de
vous? J'avais rien à perdre. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça, j'étais pas du tout dans ce milieu-là, ni de compétition, ni de haut niveau, rien. J'ai dit, moi, je vais me faire plaisir, je vais faire ce que je sais faire. Et puis après, c'est déjà une super expérience.
Mm-hmm. C'est déjà là, bon c'est à déjà prendre. De toute façon.
Même si ça s'arrête là, c'est génial, quoi. Et donc, on fait notre truc. Après, j'ai un entretien oral. Donc là, pareil, il y a tout le staff qui vous regarde, qui vous pose des questions. Quelles sont tes motivations? Pourquoi tu montes à cheval? Moi, je leur ai dit, j'étais honnête. Et moi, je suis tombée un peu là-dedans, un peu finalement par hasard. Je monte à cheval depuis même pas 3 ans. Par contre, oui, je suis quelqu'un d'ambitieuse, je suis quelqu'un qui a de l'envie et je pense être capable d'aller, pourquoi pas, jusqu'aux Jeux Olympiques en paradressage. Mm-hmm. Je me sens, moi, mentalement, prête de travailler pour cette échéance.
Alors que, finalement, quand votre coach vous avait proposé les premiers concours quelques années avant, il n'y avait pas plus de...
Il n'y avait aucun enjeu, mais très vite, j'ai pris goût à cette adrénaline. Et je me dis, moi, un concours dans la région, ça ne me suffit pas, quoi.
D'accord,
si je fais des concours, c'est les Jeux Olympiques.
Donc, qu'est-ce qui vous a attiré? C'est l'adrénaline, c'est le...
Je veux toujours faire ce qu'il y a de plus.
Ok.
Voilà. Un simple concours, ça ne me suffit pas, ça ne m'intéresse pas du tout.
Ok.
Voilà. C'est bien pour s'exercer, pour s'amuser avec les copines le week-end. Voilà, donc les gens n'ont pas du tout cru hein, quand j'ai dit que je voulais faire du haut niveau, aller aux Jeux Olympiques. Oui, bien sûr, Sophie, c'est bien de rêver. J'ai dit, si, mais moi, au fond de moi, je sais que j'ai le caractère pour ça et je peux y arriver.
Donc, il y a eu cet entretien donc, avec le c'est staff ça. De l'équipe de France.
Et à la fin de l'entretien, on me regarde dans les yeux et on me dit, bienvenue. Bon, alors là, waouh, quoi. Ouais. Là, c'est merveilleux. Pareil, on me dit, bienvenue, je suis très contente, mais je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas ce que je vais faire, ce qu'on va me demander, où je vais aller.
Est-ce que vous avez eu peur à ce moment-là?
Parce pas du tout.
Quand vous me disiez tout à l'heure, quand on m'a annoncé ma maladie, je n'ai pas eu peur.
Non, pas
et
du
là
tout.
Là non plus, pas de
du
peur.
Tout. Okay. Pas de peur.
Alors, c'est quel sentiment à ce moment-là, alors?
Heureuse, une fierté, j'ai réussi. Je me suis dépassée. À chaque fois, je me suis dit, même si ça s'arrête là, j'ai tout donné pour y arriver.
Et ça reste une étape franchie.
C'est une étape
intermédiaire.
À chaque étape, ouais. On voit.
Ok.
Voilà.
Et encore une étape de franchie, finalement.
C'est ça.
Ok.
Et j'ai confiance en la vie, en la destinée. J'ai toujours eu, j'estime avoir énormément de chance, même avec une maladie. Je suis quelqu'un de très, très, très chanceuse. Mmh. Après, il faut savoir ouvrir les portes. Voilà. On a des clés, il y a des personnes, je sais, qui n'osent pas voilà, ouvrir, qu'est-ce qu'il y a derrière, on ne sait pas, ben oui, on ne sait pas.
Donc on n'y va pas, voilà, on a
on
peur,
y va pas,
donc
mais
on
bien
y va
sûr
pas.
Qu'il faut y aller. Mmh. Bien sûr, c'est toujours génial ce qu'il y a derrière les portes.
Donc là, vous rentrez, donc vous êtes sélectionnée en équipe de France,
je suis sélectionnée.
Ensuite, comment ça se passe?
Alors là, très vite, je deviens amie avec Céline Gerny, qui est une cavalière aussi extraordinaire, en fauteuil roulant. Qui a déjà fait 3 fois les Jeux Olympiques par adressage.
Qui a une sclérose en plaques aussi, ou c'est une autre maladie?
Un accident de cheval, chute de cheval. Et elle se retrouve paralysée, et pareil, ça en vient une force. Et elle fait grâce à ça du haut niveau.
D'accord.
Voilà. Donc c'est devenu une amie très très proche. Je lui ai même prêté mon cheval. On a fait toutes les deux des compétitions en international avec ce même cheval Landiro, parce qu'elle, à cette époque-là, n'en avait plus. Et donc, elle m'a appris aussi à rentrer dans cette équipe de France, à en connaître les codes. Voilà, c'est un monde vraiment à part, hein,
alors,
très très particulier.
Quel type de code, par exemple?
C'est plutôt à m'apprendre d'avoir une carapace, parce que c'est un monde très très difficile. On n'est plus trop des êtres humains, mais on est des numéros. Et on doit faire du score, du point, etc. Donc, c'est quelque chose, voilà, enfin, moi, je ne connaissais pas du tout, quoi. Donc elle m'a préparé à ça, elle m'a préparé aussi à tout ce qui était code très protocolaire. Voilà, il y a des tenues exigées, il y a des moments où tu dois faire ça, là tu n'as pas le droit. Voilà.
D'accord.
Donc elle m'a intégrée comme ça. Et de là, je suis partie, j'ai fait mon premier international à Somma Lombardo en Italie.
D'accord.
Voilà, donc une expérience. Alors bien évidemment, hein, je n'ai pas fini sur le podium, c'est mes premiers concours. Mais c'est absolument fabuleux.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez un objectif en particulier en termes de, alors, de résultats?
Alors de résultats, pas du tout.
Okay.
C'était vraiment un bon déroulement, savoir si mon cheval se comportait bien après un long trajet. Voilà, il n'y avait pas du tout d'objectif de résultat. Et ça aurait été prétentieux en plus de ma part. Et je pense que là, pour le coup, j'aurais été très déçue si j'en avais eu un. C'était voilà, de s'acclimater tout ça et de prendre de l'expérience. Et ça a été pareil pour la suite des concours internationaux. Je ne me suis jamais mis d'objectif de gagne.
D'accord.
Parce que là, c'est la cour des grands, quoi. Là, maintenant, c'est plus les concours locaux. Il faut absolument de l'expérience.
Mm-hmm.
Voilà. Et c'est comme ça que je vais arriver jusqu'au podium. Mais maintenant, il faut du temps.
Okay.
Il faut accepter, alors moi je dis tout le temps, hein, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend.
J'aime beaucoup cette citation.
Donc ça, je l'utilise beaucoup, beaucoup. Mmh. Et souvent, après un concours, on me dit, oh, t'as fini sixième, t'es pas déçue. Je dis, mais bien sûr que non, je suis pas déçue. Moi, je sors avec des protocoles de juge international.
Mmh.
Qui a la chance d'avoir un jugement de juge internationaux
Et ça va pouvoir me faire progresser.
Donc, c'est incroyable.
C'est un cadeau.
Avec toujours des commentaires très positifs en plus. Voilà, c'est des gens très intelligents. Ils disent, ben voilà, oui, il y a du travail, tu en es là. Pour ton travail, là, c'est très bien. Maintenant, continue, quoi.
Hmm. Ok.
Voilà.
Donc cette sélection d'équipe de France, elle remonte à il y a combien d'années?
Donc, ça fait un petit peu plus de 2 ans, on va dire.
D'accord.
2 ans et demi.
Donc, ça veut dire quoi? Ça représente quelle charge de travail en termes d'entraînement, en termes de compétition? C'est combien de compétitions à l'année? Enfin voilà, comment ça s'organise tout ça?
Alors, en concours internationaux, on sort environ 3 à 4 fois dans l'année. Après, à nous de faire des petits concours locaux pour justement sortir, s'entraîner. Ça demande un entraînement quotidien, d'être au quotidien avec son cheval. Le travailler au moins 5 à 6 fois dans la semaine, partir en stage.
Donc à raison de combien de temps par jour, un entraînement par jour, ça représente quoi?
Alors,
par exemple,
on va dire on monte 3 quarts d'heure, 1 heure, mais il y en a toute une préparation à faire avant. On a le pensage, voilà. Donc c'est minimum 2 heures. 2 heures pour monter son cheval.
D'accord, ok.
Après, ce sont des chevaux de haut niveau, ce sont des grands sportifs, il faut en prendre soin. Moi j'estime que l'après-midi, le matin c'est le travail, et l'après-midi c'est aussi une sortie, c'est une liberté, et ça compte minimum aussi 2 heures.
Donc, d'accord.
Minimum 4 heures par jour de soins, de travail, de m'occuper de lui.
Vous parliez de la fatigue tout à l'heure.
Oui.
Du coup, aujourd'hui, ça, c'est extrêmement fatigant pour vous, ces 4 heures-là
Alors oui, c'est fatigant. Après, je crois qu'on s'habitue aussi à la fatigue. Je pense que mon corps est devenu quand même plus endurant.
Mm-hmm.
J'aurais peut-être pas pu faire ça il y a 6 ans.
Mm.
Alors, à cheval, parfois, je suis extrêmement fatiguée. Je ne m'arrête que quand je vomis.
D'accord.
Voilà.
C'est la limite extrême de...
Voilà. Quand je vomis de fatigue, je me dis stop.
C'est le signal d'alerte.
C'est ça. Donc, il faut pas trop s'écouter. Voilà. Moi, j'ai des amis autour de moi qui sont malades. Et oui, je suis fatiguée. Moi aussi, je suis fatiguée. Mais si tu t'écoutes trop, tu ne feras rien.
Mm-hmm.
Voilà, tu vas rester assis sur ton canapé. C'est un cercle vicieux. Moins t'en fais, plus t'es fatiguée. Il faut savoir se dépasser un petit peu. Peut-être que je suis trop extrême et je ne devrais pas attendre de vomir pour m'arrêter. Mais il faut savoir se dépasser.
D'accord. Ok. Dans tout votre parcours, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, ou en tout cas, j'imagine que oui, parce qu'on en a tous. En tout cas, quelles ont été vos plus grandes difficultés?
Alors, ma première difficulté, ça a été justement quand le premier coach qui m'a fait faire ma balade m'a dit « je ne veux plus te faire monter parce que c'est trop dangereux ». Là, ça a été, je crois, le moment le plus difficile de mon parcours.
D'accord.
Parce que là, c'était vraiment... C'était pas possible, quoi. Je sentais bien...
C'était pas envisageable.
C'était pas envisageable.
Ok. Comment après, vous avez fait pour vous relever de ça? C'est le fait de trouver quelqu'un.
J'ai pas lâché. Je suis retournée au centre équestre tous les jours. Je gérais, mais c'est vraiment le mot, gérais dans le centre équestre à essayer de trouver une solution. Et ça a marché. Voilà, ça a mis peut-être 1 ou 2 mois, mais je suis tombée sur la personne qui me voyait tous les jours errer et essayer de trouver une solution et qui me dit, ben moi je veux t'aider.
D'accord.
J'ai pas lâché.
Donc c'est parce que du coup c'était ma prochaine question, est-ce que vous avez eu des personnes significatives dans votre parcours? Donc là j'imagine que typiquement cette personne.
Bien sûr. Oui. Il y a eu ces deux personnes qui m'ont prêté leurs chevaux. Bien évidemment, hein, ils m'ont beaucoup aidé. Et voilà. Après j'ai rencontré des merveilleuses personnes grâce au monde du cheval, comme une écrivaine. Voilà. Bénédicte des Mazarines, qui a écrit pour Laetitia Millot une histoire parlant du cheval et du handicap. Et bien évidemment, c'est complètement improbable de rencontrer ce genre de personne alors qu'on fait juste du cheval. Voilà. Parce que ça reste un sport de haut niveau, mais on ne sauve pas des vies, ça reste un sport quand même. Hein. Et donc rencontrer voilà, des personnes un petit peu insolites comme ça, c'est toujours un bonheur.
Ça vous a inspiré quoi, cette rencontre avec cette personne-là?
Je me suis dit, alors au début c'était plutôt ça mon optique, à me dire je ne comprends pas pourquoi les gens sont en tant d'admiration pour ce que je fais, c'est du sport quoi, c'est pas... Je vois dans l'équipe de France, il y a pas mal de cavaliers qui se la racontent, voilà. Que ça soit en professionnel, valide ou handicapé. J'ai dit mais vous savez les copains, on va pas sauver des vies sur les carrés de concours quoi, on fait du cheval, on fait du poney, enfin c'est pas... Et en fait, je crois qu'on donne de l'espoir aux gens. Et finalement, c'est peut-être aussi important de pouvoir montrer qu'avec un handicap, on peut être heureux, qu'on peut faire du sport, même à haut niveau. Et donc, c'est peut-être pas si anodin que ça, quoi. Je comprends qu'on puisse maintenant... c'est très prétentieux de dire ça, mais d'avoir une certaine admiration pour ce que je fais. Voilà, ça peut, j'espère en tout cas, provoquer des envies et des espoirs.
Être une source d'inspiration.
Ouais, j'espère vraiment que tout est possible. Tout est possible.
Même avec un handicap. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment l'objectif de ce podcast et c'est ce qui m'a donné envie de vous rencontrer. C'est voilà, de pouvoir diffuser ce message qui est très très fort et qui est extrêmement positif, de dire tout est possible, et même quand on a un handicap, tout est possible.
Et même
on peut réaliser beaucoup de choses. Est-ce que vous avez eu un mentor en particulier, ou quelqu'un d'un point de vue, je dirais, technique de dressage? Quelqu'un qui vous a inspiré?
Non, je dirais non. Par contre, je me suis inspirée de plusieurs cavaliers professionnels. J'estimais que chacun avait quelque chose à m'apporter, mais je ne veux pas être dans cette optique. J'ai un mentor. Je pense qu'on a chacun du bon et chacun du mauvais. Et voilà, il faut prendre le bon chez tout le monde.
D'accord.
Voilà, okay. Pas de mentor.
Et alors là, on a parlé de l'équitation,
oui.
Mais je crois savoir qu'il y a aussi la boxe qui fait partie de votre vie. C'est ça. Que vous pouvez nous raconter.
Ouais. Alors la boxe, alors, c'est tout nouveau, c'est de cette année.
Alors cette année de 2018,
l'année scolaire.
Au moment où on se voit, on est en début 2019, mais d'accord. Donc.
On est 2019, ça fait environ 3 mois que je me suis mise à la boxe, donc c'est très récent. J'adore. Alors en plus vraiment d'aimer profondément ce sport, ça m'aide physiquement, mais de façon incroyable. C'est-à-dire que en 3 mois de temps, j'ai réussi à avoir mon premier rendez-vous chez mon médecin rééducateur et me dire « Sophie, ça fait 16 ans que tu es malade et aujourd'hui je peux te dire que ta jambe va mieux. Tu vas mieux. » C'est la première fois que je l'entends en 16 ans. Il y a du progrès. Donc ça, c'est grâce à la boxe, c'est un sport hyper complet, d'équilibre, de force, d'endurance, Donc, voilà, le box est mon nouveau médicament.
Comment vous avez découvert ça? Qu'est-ce qui vous a donné envie de...
Alors, moi, la box, ça m'a toujours assez fascinée. J'ai toujours voulu en faire, sauf que mon papa n'a jamais voulu que sa fille fasse de la box. Mm-hmm. C'était pas un sport de fille. Mm-hmm. Et ma fille va à l'école en face d'une salle de box. Tous les matins, je l'accompagne à l'école et je vois sa salle de box tous les matins en l'amenant. Et elle-même en fait via l'école. Mm-hmm. Je me dis, c'est le moment. Il faut que j'essaye, il faut que je me lance. Pareil, alors là, avec une jambe, vous imaginez bien, boxer avec une jambe, c'est quand même compliqué. Et ils m'ont tout de suite accueillie et ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, tu feras les exercices que tu peux faire. Et rapidement, j'ai pu faire de plus en plus d'exercices, même sauter à la corde à sauter, un truc qui me semblait inimaginable. Et en 3 mois de temps, voilà, ça a aussi bien, bien bousculé ma vie.
D'accord. Donc, vous avez un rythme d'entraînement spécifique ou un coach, quelqu'un qui vous suit ?
Alors, j'ai pas un coach spécifique, en tout cas en boxe. En équitation, oui. Mais alors, la boxe, ça m'aide aussi pour le cheval. C'est-à-dire que quand on fait du haut niveau, c'est du haut niveau. Il faut une hygiène de vie irréprochable. Il faut un physique aussi irréprochable. Moi, physiquement, je n'étais pas suffisamment prête et assez forte pour faire de la compétition internationale à cheval. L'année dernière, en mars 2018, lors d'un international, je perds mon bras. C'est-à-dire que je n'ai plus du tout de sensibilité, de motricité à mon bras droit.
Au moment où vous rentrez ?
Au moment où je rentre pour dérouler ma reprise de concours. Devant tout le monde, devant les juges, devant les spectateurs.
Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, dans la tête, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai besoin quand même de mes deux bras pour dérouler une reprise. Surtout, ces reprises quand même d'une technique assez importante. Je ne peux pas m'arrêter en plein milieu, je continue. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'au bout, mais je l'ai fait avec des moments quasi d'inconscience. Je suis allée jusqu'au bout. Je suis descendue de cheval, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, pas parce que j'avais fait une mauvaise reprise, mais parce que j'ai fait le deuil de mon bras droit, je suis droitière. Donc là, ça a été un moment difficile.
Vous avez fait le deuil de votre bras pendant cette...
C'est ça.
Donc c'est quelques minutes, enfin, c'est extrêmement
tout
rapide.
Tout va vite, tout va très très vite. Je suis en larmes, je me dis là, ça va être compliqué, il va falloir vite que je rebondisse. Ça a duré 48 heures. 48 heures, je me dis ok... C'est une nouvelle étape, on change de vie. Maintenant, je prends conscience que physiquement, il va falloir beaucoup plus de préparation, beaucoup plus de techniques, que j'adapte des choses sur mon cheval, moi, dans ma vie quotidienne. Il va falloir que je fasse plus de sport. Donc là, voilà, il y a tout ce que je vous expliquais concernant la boxe, je me mets à la boxe. Et j'ai bien fait d'y croire, parce que ça va mieux.
Donc ça veut dire que quand vous avez commencé la boxe, à ce moment-là, vous n'aviez pas récupéré...
Je n'ai pas récupéré mon bras.
Votre bras.
En tout cas, pas entièrement. J'avais encore une grosse séquelle à mon bras droit.
Et les médecins vous disaient quoi à ce moment-là ?
Les médecins me disent, on fait le possible pour que tu récupères avec des produits chimiques. Ça ne marche pas, au contraire, ça s'aggrave avec les produits. Je décide d'arrêter tous ces produits-là. Et il me dit, voilà, on peut pas trop prévoir. Plus ça avance dans le temps, moins tu as de chances de récupérer.
Ok.
Hein? Voilà, après, ça se sclérose, quoi. Hein, c'est terminé, et ça reste figé.
Ok, donc l'idée, c'est de récupérer au maximum. L'idée, c'est de récupérer un maximum. Possible.
Alors, même dans ma tête, c'était même pas de récupérer, parce que trop peur d'être déçue si je ne récupère pas. Il faut que je trouve une alternative. Vivre autrement avec ce bras perdu, quoi.
Toujours en exerçant cette passion,
toujours,
mais avec ce bras perdu.
C'est ça. Donc, j'ai jamais arrêté de monter à cheval. Je me suis fabriqué des systèmes de poignets parce que je n'arrivais plus du tout à tenir la rène. C'était quand même compliqué. J'ai plus travaillé avec la voix pour qu'ils me répondent, voilà, avec des codes bien plus précis. Ça a fonctionné, mais encore une grosse gêne au niveau du bras. Donc, je commence la boxe et là, voilà, au bout de 2 mois, je sens véritable bienfait, quoi. Et en parallèle, je ne fais pas que de la boxe, je fais aussi de la natation.
D'accord.
Voilà. De la natation, où là, j'ai un coach et je lui dis, je voudrais réapprendre à nager avec un bras et une jambe.
Donc la natation,
tout
c'est récent aussi
droit,
C'est au même moment que la boxe.
Je fais tout ça en même temps.
C'était une volonté de faire la natation ou c'était un moyen de récupérer ce bras ?
De récupérer, okay. De me remuscler, de trouver des solutions. Et donc, le mélange des deux est un bon mélange et me fait progresser rapidement.
Okay. Donc aujourd'hui, votre bras, il en est où ?
Alors aujourd'hui, je ne dis pas que je l'ai récupéré à 100%, mais voilà, je mets de très bons crochets du droit. Donc, c'est que ça va mieux.
Donc, vous arrivez à tenir les rênes sans problème.
Voilà, j'arrive à tenir, j'ai enlevé mes poignets. J'arrive de nouveau à monter quasi normalement. Mais je sens que j'ai encore une fragilité, il ne faut pas que je m'arrête. Il va falloir que ce sport-là, de façon intensive, c'est-à-dire 6 heures de boxe par semaine, 1 heure de natation par semaine et 5 heures d'équitation par semaine.
D'accord.
Voilà, donc c'est quand même
Donc c'est intense. C'est votre vie, le sport aujourd'hui.
C'est ma vie.
Vous en vivez aujourd'hui?
Ah ben non, ça me coûte cher
okay.
pour l'instant. Et d'ailleurs aussi, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas que le physique, mais aussi le financier, qui m'a fait un petit peu aussi arrêter l'international. C'est des saisons qui coûtent extrêmement cher. Mm-hmm. Et si notre corps n'est pas suffisamment prêt, ça peut trop, trop vite nous coûter cher à l'année. Mm-hmm. Donc, je referai de l'international lorsque mon corps sera stable, aura pris suffisamment de force pour repartir là-dedans.
Donc aujourd'hui, donc la boxe, la natation, l'équitation. Est-ce que vous avez d'autres projets
d'autres. J'aimerais faire mon premier triathlon en relais. Moi, je fais la natation et mon mari la course à pied et le vélo pour septembre prochain.
Ok.
Voilà, un petit challenge. Et la boxe, pourquoi pas un ou deux combats. Moi, ça me dirait bien d'ici un an ou deux faire un peu de compète aussi.
D'accord, encore plus quoi.
Encore plus, encore toujours plus, toujours plus.
Vous avez donné beaucoup, beaucoup de choses là au travers de ces échanges-là, mais si vous deviez retenir une leçon de vie de votre parcours et inspirer les gens qui vont nous écouter, ce serait quoi cette leçon de vie?
Alors déjà que tout est possible, il ne faut jamais, jamais, jamais baisser les bras. Je crois aussi que dans toutes les difficultés, on retrouve de la ressource et du positif. J'en suis même arrivée à me dire, à la prochaine catastrophe de vie, je n'ai presque hâte, parce que je me dis, après ça, je vais être encore plus forte. Je veux dire, je suis prête à recevoir tous les chaos de la vie, parce qu'après ça, mais ça va être encore mieux.
Même si cette situation-là va être difficile.
Bien sûr. Et je suis même persuadée que plus c'est difficile, plus ça nous rend fort.
D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui sont là actuellement dans une situation difficile, qui par exemple viendraient d'apprendre une maladie ou une autre difficulté de la vie, justement comme vous venez de le dire, et qui eux n'arrivent pas à se dire ça et qui vivent la difficulté tellement... C'est tellement douloureux qu'ils n'arrivent pas à s'en relever et à s'en remettre.
Alors, je pense aussi que je suis née avec ce caractère-là. De quelqu'un de plutôt optimiste, toujours trouver le positif partout. Moi, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, il faut faire un travail sur vous-même et essayer de trouver justement cette porte de sortie, mais qui va vous rendre encore plus fort, mais grâce à ça. Moi, sans la maladie, mais j'aurais pas fait de haut niveau, j'aurais pas été en handisport. C'est grâce à elle. C'est elle qui me surpasse et qui me dit tous les matins, t'as une chance de vivre. J'aime trop la vie pour me laisser aller. Et je me suis tatouée dans le dos une phrase de Monsieur Mandela aussi, que j'aime bien, qui peut-être peut aider. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est en moi et qui est très important. C'est pas parce que je fais toutes ces choses que je n'ai jamais peur aussi de rien. Bien sûr, j'ai pas envie de me retrouver dans un fauteuil roulant. J'ai envie de pouvoir...
Vous l'avez déjà imaginé, ça? Oui. Que ça puisse arriver?
Oui, je l'ai déjà imaginé. J'en ai déjà parlé à ma fille. Et ma fille m'a dit, ça serait super, on ferait des courses comme ça. On ferait des courses de fauteuil.
Je pense qu'elle a hérité du tempérament de sa maman.
Voilà, c'est ça. Mais c'est fabuleux, voilà. Et je crois qu'elle a tout compris. Il faut tout le temps trouver le positif dans ce qui nous arrive.
Ok. Est-ce qu'il y aurait une source d'inspiration que vous auriez envie de partager? Peut-être un livre, je ne sais pas un film, une personne ou un livre ou quelque chose qui aurait été une source importante dans votre vie d'inspiration?
Moi, il y a eu des personnes comme ça, comme Monsieur Mandela, comme Sœur Emmanuelle. Je ne suis pourtant pas pratiquante ni croyante. C'est des personnalités, oui, que j'admire beaucoup et je crois qu'ils m'aident par leur force de caractère, par leur vision très positive de la vie.
D'accord. Il vous arrive quand même, par moment, peut-être d'avoir un petit coup de mou, comme ça peut nous arriver à tout le monde, et justement de penser à ça et de...
Je ne sais plus, la dernière fois que j'ai eu le coup de mou, je crois que le dernier, c'était quand j'ai perdu le bras, mais voilà, très rapidement, c'est revenu. Et je m'en suis servie comme une force supplémentaire, donc je n'en garde pas, même pas un mauvais souvenir.
D'accord. Est-ce que vous êtes amenée aussi à, côtoyer des gens que vous inspirez, que ce soit dans l'équipe de France ou ailleurs, hein, je ne sais pas, dans vos clubs de sport ou autres, à être une source d'inspiration pour des personnes?
Alors oui, j'ai souvent mes amis qui me le disent. Alors moi, ça me gêne terriblement parce que je n'ai pas l'impression de faire des efforts. Enfin, c'est ma façon de vivre et d'être qui est comme ça. Mais souvent, elles me disent « Oh là là, nous, on n'a pas le droit de se plaindre. Toi, tu te plains jamais. Tu fais des tas de choses. » Alors quand on a un coup de mou, on pense à toi et puis on est reparti. Et puis ça va mieux. Oui, ça me fait très, très plaisir. Mais je crois que je n'ai pas beaucoup de mérite non plus, quoi. Je suis comme ça et c'est tout. C'est mon caractère, quoi.
Bien, ben merci beaucoup pour ce partage-là. Alors, c'est quoi la suite là, pour vous suivre? C'est quoi l'actualité? Les prochaines compétitions? Voilà, c'est quoi l'avenir?
Alors, l'avenir, je pense que je ferai de nouveau des petits concours dans la région au printemps pour me remettre aussi dans le bain du concours. Je garde cette préparation physique intense, je pense, toute cette année et peut-être même encore l'année prochaine. Niveau objectif, grosse échéance et gros projet, c'est 2024, les Jeux Olympiques de Paris.
Ok.
Où là, bien évidemment, j'espère être sélectionnée pour les faire. Et en attendant, voilà, ça sera une préparation et j'avoue que j'aime cette vie sportive que j'ai actuellement et je ne me verrais pas refaire de l'international là tout de suite parce que ça me priverait de tout ce temps pour faire de la boxe, pour faire de la natation. Et là, j'apprécie ce moment-là, je vais encore en profiter.
Ok, donc le continuer à fonctionner comme aujourd'hui, avec ses entraînements et avec pour objectif à moyen terme les JO 2024.
Voilà, c'est okay. Ça. Je m'entraîne en tout cas pour tous les jours.
Ok, ouais. Ça marche. Et alors justement, si on veut vous suivre, s'il y a des auditeurs qui veulent vous suivre, est-ce que c'est possible et si oui, comment? Sur les réseaux sociaux
Bon, après, j'ai une page Facebook qui est ouverte où j'accepte très volontiers les personnes qui veulent me suivre.
D'accord.
Voilà, mon nom, Sophie Gélard-Bartolo. Ok. Je mets des petits posts de ce que je fais.
D'accord. Voilà. Bon, ben, je mettrai les références de ce contact-là dans les pages dans les notes de l'épisode, pardon. Ben, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour ou est-ce que vous avez autre chose à partager avec nous?
Oui, c'était un moment très agréable. Bon. Je vous remercie.
Super. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié de vous écouter et j'ai absorbé vos paroles. Je vais les digérer. J'espère que ça va inspirer beaucoup d'autres personnes. Et puis, en tout cas, moi, je vais vous suivre et je vais surveiller les JO 2024. Je pense que je vais m'y intéresser différemment maintenant. Merci beaucoup, Sophie.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Rebonjour à tous. J'espère que cet échange avec Sophie vous aura transmis une bonne dose d'énergie et d'optimisme. Sophie nous l'a dit, elle a certains traits de sa personnalité qui sont innés chez elle, comme la détermination, l'optimisme, cette capacité à voir le côté positif des choses, et puis la volonté aussi d'en faire toujours plus, par exemple. Et ce sont des traits de caractère qui lui permettent d'avancer, de progresser et d'être heureuse. Mais comme nous sommes tous différents, nous n'avons pas tous ce type de personnalité comme Sophie. Pour autant, nous avons tous et toutes des qualités naturelles sur lesquelles nous pouvons capitaliser, notamment pour traverser les épreuves de la vie. Alors, plutôt que d'ailleurs nous concentrer sur nos défauts et les ruminer, je vous propose de vous focaliser sur vos forces. Ce que je vais partager avec vous dans cette deuxième partie d'épisode est issu d'un livre que j'apprécie tout particulièrement, qui s'appelle « La fabrique à kiff », écrit par Florence Servan-Schreiber, Audrey Acoun et Isabelle Payot. Elles y consacrent tout un paragraphe sur ce qu'elles appellent nos super-pouvoirs. Elles se sont en réalité inspirées de la psychologie positive. Alors, en deux mots, la psychologie positive, c'est la science du bonheur. Et elles se sont notamment inspirées des travaux de Martin Seligman et Christopher Peterson, qui, je cite, « se sont eux inspirés par le manuel de diagnostic des désordres mentaux, Bible de la psychiatrie américaine ». Ils ont en effet estimé que s'il existait un livre capable de recenser tous les troubles mentaux, il pourrait en exister un qui listerait toutes les qualités humaines. En 2004, ils se sont mis au travail et ont créé un vocabulaire positif basé sur nos valeurs, nos personnalités et nos traits de personnalité. ils en ont publié un manuel de classification de plus de 800 pages. Autant dire qu'ils sont entrés dans le détail. Mais soucieux de rendre cette connaissance pratique et applicable, ils ont aussi rédigé un questionnaire que l'Institut VIA a mis gratuitement en ligne pour le grand public. Progressivement traduit au fil des années, ce questionnaire est désormais disponible dans le monde entier et accessible à tous ceux qui ont accès à une connexion Internet. Ce que je vous propose donc est de prendre un temps pour réfléchir à ce que les trois auteurs de ce livre, La Fabrique à Kif, appellent votre trousseau de clés, c'est-à-dire vos principales forces de caractère, vos principales traits de personnalité. Je vous invite à réaliser ce test en ligne qui peut être fait gratuitement pour justement identifier vos principales forces de caractère et je vous mettrai dans les notes de l'épisode le lien direct pour accéder au questionnaire. Focalisez-vous sur vos 5 principales et 5 premières forces de caractère et utilisez-les d'une manière ou d'une autre pour traverser les épreuves de la vie, tout comme Sophie a capitalisé sur son optimisme pour appréhender les catastrophes qu'elle a pu rencontrer. Cet exercice vous permettra à votre tour de savoir sur quelles qualités propres vous pouvez vous baser. Voilà pour ce 7e épisode. Encore une fois, je vous invite à me faire vos feedbacks et à me contacter si vous avez des questions. Toutes mes coordonnées se trouvent sur le site www.cbcoach.fr, ce site d'ailleurs qui, au moment où je vous parle, est en train de se faire une petite beauté et dont la nouvelle version devrait être en ligne dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.